Radio Kapi.
L'UNICEF et le PAM vont au secours d'au moins 123 000 personnes vulnérables habitant la commune de Lancélé, ici à Kinshasa. C'est un montant de 90 000 à 150 000 francs congolais par ménage. Objectif, atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus. Le lancement officiel a eu lieu hier sur place Lancélé. Affaire vente et trafic des munitions de guerre dans la région de Beni. Les enquêtes se poursuivent. Hier, les enquêteurs ont déclenché la procédure de vérification de la dotation et utilisation des munitions par la 32e brigade de réaction rapide des FARDC. Et puis, toutes les agences du système de l'ONU évoluant dans le Kasaï vont renforcer leur appui aux populations vulnérables de cette région, annonce hier Mbujimayi du coordonnateur des bureaux PAM des provinces du Kasaï, Ivy Dalbenda, et notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kinshasa. 20 500 ménages vulnérables de la commune de Lancélé, soit 123 000 personnes affectées par les conséquences socio-économiques du coronavirus, bénéficient désormais d'une assistance monétaire. C'est le fruit d'un projet pilote conjoint mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, et le Programme Alimentaire Mondial, PAM, avec le financement des gouvernements américains et britanniques. Objectif, atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu hier à la paroisse Saint-Raymond dans la commune urbano-rurale de Lancélé. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Ilali Koko.
Les États-Unis sont le premier intervenant dans ce projet, avec à la clé 10 millions de dollars américains. L'ambassadeur Mike Hammer voit dans cette expérience une manière pour son pays de soutenir la RDC dans la lutte contre la corruption.
Mais ce programme, c'est très intéressant parce que ça commence à utiliser la digitalisation de l'argent pour éviter la corruption. Et ça, c'est très important parce que, comme on a parlé beaucoup dans l'RDC, bon, le problème de la corruption, c'est un vrai problème. Mais ce programme ici, c'est bien fait à travers de notre partenaire d'UNICEF, de PAM, de World Vision, pour assurer que l'argent qui est donné, l'assistance, est pour les familles qui ont le plus besoin et pas des autres qui voudraient peut-être avoir cet argent.
Pour le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Bekbeder, l'enfant est le premier bénéficiaire de ce projet. Enfin, Madame Ndongo Marie, l'une des bénéficiaires, se réjouit. Que Dieu bénisse les bienfaiteurs. Cet argent m'a relevé. J'étais dans la souffrance. Notons que cette assistance monétaire se traduit par un vodacash de 90 000 à 150 000 francs congolais par ménage.
Pendant ce temps, toutes les agences du système des Nations Unies évoluant dans les provinces du Kasaï vont renforcer leur appui aux populations vulnérables de la région du Kasaï, annonce faite hier par le chef de bureau du Programme Alimentaire Mondial au cours des échanges avec le gouverneur du Kasaï Oriental. D'après Ivy Dalbenda, coordonnateur des bureaux PAM des provinces du Kasaï, ce renforcement se fera à travers une nouvelle dynamique dénommée Nexus, qui consiste à mettre en œuvre des programmes qui réduisent les risques, les vulnérabilités et les besoins des communautés. Ivy Dalbenda s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Cette année, les perspectives s'inscrivent dans le cadre de certains ajouts de programmes qui vont en quelque sorte renforcer le travail que nous faisons essentiellement sur le terrain. Donc l'assistance humanitaire que nous sommes en train de faire va prendre un volet assez particulier qui s'inscrira dans le nexus, c'est-à-dire qu'il y aura une synergie entre les différents agents du système des Nations Unies, à savoir le PAM, la FAO, l'UNICEF et le PNUD. Plus concrètement, il s'agirait d'appuyer la population à travers les activités agricoles et aussi les activités liées au AGR. C'est essentiellement ce que nous avons partagé avec l'autorité provinciale pour lui dire que bon, notre assistance va continuer parce qu'il y aura toujours des vulnérables que nous allons servir. Mais au-delà de ces vulnérables, il faut aussi aider ceux qui sont capables de pouvoir surmonter cette étape de vulnérabilité et devenir résilients dans le cadre de l'agriculture ou bien des AGR.
Dans l'actualité aussi, ces dégâts de la dernière pluie à Kinshasa, des centaines d'hectares de cultures sont détruites sur le site Rai 1, situé au bord de la rivière Njili. C'est entre les quartiers Kingabwa et Petro-Congo. Des champs de riz Ngwele et toutes sortes de légumes sont encore sous eau, deux jours après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale. Une grande désolation pour 1200 familles des maraîchers. Le président du site Rai 1, Marada Pongo, lance ici un cri d'alarme au micro de Freddy Lufuluabo.
Toutes les cultures sont sous l'eau. Les riz, les légumes, et vraiment, les dégâts sont énormes. Le site renferme 1200 ménages, estimés à plus ou moins 6000 personnes. Ces familles ne savent pas à quel sein se vouer. Mais il y a aussi la spoliation qui rétrécit les sites avec les habitations. Alors, ces dégâts touchent directement les plus de 6 000 personnes et a aussi des conséquences indirectes sur la population qui consomme aussi ces légumes-là. Alors nous demandons aux autorités de porter aussi une solution pour que nous puissions reprendre nos activités. Sinon, nous ne savons pas qu'est-ce que deviendra Kinshasa demain à ce qui concerne les légumes. Parce que si vous attendez Matembele Yangwele, Ndunda Yangwele, ça vient de chez nous ici.
Cap vers les élections de 2023, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rendu public hier son agenda qui déroule une série d'activités pour la tenue des scrutins en décembre 2023. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a déclaré que cet agenda n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. On écoute l'abbé Cholet dans cet extrait choisi par Paul Matendo.
Nous tenons à ce niveau à apaiser les cadres, les militants des partis politiques et les groupements politiques sur le fait que l'agenda pour les élections 2023 de la CENCO n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. Il est en fait un programme planifié pour mobiliser la population autour de la question électorale afin que, de son vote, arrive au pouvoir des personnes et programmes qui répondent à leurs aspirations. L'agenda pour les élections 2023 en RD Congo, que nous lançons ce jour, prévoit aussi des activités de plaidoyer et de médiation pour pallier aux problèmes ainsi qu'aux conflits qui surviennent souvent chaque fois que le pays s'engage dans le contexte électoral.
Je vous le disais en titre, poursuite des enquêtes sur l'existence d'un réseau de vente et trafic des munitions de guerre dans la région de Beni. Enquête menée par l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu basée dans cette région. Les enquêteurs ont déclenché hier la procédure de vérification de la dotation et utilisation des munitions par la 32e brigade des unités des réactions rapides des FARDC. C'est dans cette unité de l'armée que quelques officiers et militaires ont été arrêtés après la saisie lundi dernier de 82 caisses de munitions dans la maison d'un particulier dans la ville de Beni. Plus de détails avec Martial Papi Mukeba.
C'est jeudi, les enquêteurs de l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu ont procédé à des vérifications à la base logistique des FARDC à Beni et au dépôt de la 32e brigade des réactions rapides des FARDC sur la quantité de munitions reçues par cette unité de l'armée depuis son déploiement à Beni en 2017. Selon des sources judiciaires, les magistrats militaires veulent savoir la quantité de munitions déjà utilisées et celle qui reste dans les dépôts de la 32e brigade des FARDC située à son état-major à Mambango, au sud de Beni. Objectif, savoir et retracer la quantité de munitions perdues ou sorties du dépôt de cette unité de l'armée par des voies illégales. D'après la même source, après cette vérification et la confrontation entre les chargés de la logistique, les chefs transport, les chefs de dépôt de la 32e brigade des FARDC ainsi que les conservateurs de la sous-station de l'ICSN de Mutsora arrêtés dans cette affaire de vente et trafic des munitions de guerre, les dossiers devraient être fixés devant la cour militaire. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Entre-temps, dans le Massissi, toujours au nord Kivu, les FARDC ont repris le contrôle mercredi de la localité de Mpati dans l'ouest du groupement Bachali-Mokoto. Cette localité est restée pendant une longue période sous occupation de la coalition CMC-Niatura et APCLS, indiquent les sources locales. Aucun bilan disponible d'après le porte-parole de Sokola 2, mais l'armée ratisse encore la zone, nous dit Bernard Nyangi.
La reconquête de la localité Mpati est intervenue au cinquième jour de cette opération que les FARDC mènent dans la zone depuis samedi, indiquent les sources coutumières de Bachali-Mokoto. Elle précise que les combattants de cette coalition Nyatura Bazungu et FPCLS de Janvier Kalaeri, pour la plupart, décrochaient de leur position à l'approche de l'armée. Du coup, les localités de Kaira, Busumba, Kalungu sont déjà presque entièrement sous contrôle des FARDC qui, après Mpati, progressent vers Kamoni. Ces sources, qui ne cachent pas leur joie de voir l'armée retourner dans la zone après plusieurs mois de rançonnement des civils par les Nyatura, demandent l'installation des positions permanentes des FARDC dans ce coin de Bachali-Mokoto. Le porte-parole de Sokola 2 dit que l'armée nettoie encore le terrain. Le major Njiki Kaiko promet de livrer plus tard le bilan de cette opération. Il rassure cependant la population que le secteur opérationnel Sokola 2 a déjà décidé de maintenir sa présence très longtemps dans cette zone après ces opérations. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Direction la province de la Tchopo, les agents de la régie des voies aériennes RVA Kisangani ont manifesté bruyamment hier devant le bureau du commandant de la RVA à l'aéroport international de Bangboka. Ils revendiquent notamment plus de 75 mois d'arriérés de salaire. Ces agents somment également Congo Airways de payer dans les 48 heures toutes les redevances requises à l'instar d'autres compagnies aériennes, faute de quoi ils vont bloquer son trafic aérien à Kisangani. Reportage signé Jacques Moukonkole.
Les agents de la RVA Kisangani chantaient à tue-tête devant le bureau de leur commandant pour manifester leur colère. Outre les 75 mois d'arriérés de salaire, ils réclament également 8 autres mois non payés après le confinement, à partir d'août 2020 jusqu'en février 2021. Cette situation entraîne des conséquences néfastes sur le plan socio-sanitaire à leur détriment, comme l'indique l'un des membres de leur syndicat.
Nous enregistrons les décès inopinés des agents, total 21 agents durant l'année 2020. Scolarisation de nos enfants, déguerpissement des agents par leurs bailleurs, plusieurs agents hospitalisés localement comme à Kinshasa.
En vue de soulager leur misère, les agents de la RVA somment Congo Airways à payer ses redevances, ne fût-ce que partiellement, dans les 48 heures, faute de quoi ils vont bloquer le trafic aérien.
Tous les avions payent, sauf l'Air Congo. C'est pourquoi nous disons ceci. Congo Airways ne paye pas le mouvement en totalité comme d'autres compagnies. Si aussi la direction générale ne prend pas en charge, je sais que nous sommes en train de dire, on va dormir avec l'avion au tarmac.
Les responsables de la RVA n'ont pas voulu se prononcer sur ce mouvement syndical de leurs employés qui en appellent à l'implication du chef de l'État. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Congo central, les femmes incarcérées dans la prison centrale de Matadi ont droit à un meilleur encadrement pendant qu'elles purgent leur peine. C'est ce qu'a dit la directrice adjointe de la prison centrale de Matadi en marge des activités du mois de mars dédiées à la femme. Dans une interview hier à Radio Kapi, Apollonia Longo a révélé que près de 5 ans sont déjà passés sans aucune activité d'encadrement des femmes dans cette prison. Nana Plurich Mambou nous fait le point.
Sur 651 pensionnaires de la prison centrale de Matadi, l'on dénombre à ces jours 19 femmes. À en croire Apollonia Longo, directrice adjointe de la prison centrale de Matadi, bon nombre de ces femmes ont encore de longues années à passer en détention. D'après la même source, le leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire, qui est le principal thème de ces mois dédiés à la femme, concerne toutes les femmes de la RDC, y compris celles en détention. Or, sans la mise en place des activités d'encadrement pour les femmes dans les institutions pénitentiaires, les leaderships féminins et l'autonomisation de la femme ne resteront que des vains mots. Apollonia Longo plaide auprès des autorités et des partenaires.
Il y avait des activités de réinsertion d'ailleurs encouragées par la MONUSCO à l'époque quand il y avait un bureau de représentation ici à Matadi. Ces activités de réinsertion sont vraiment importantes dans une prison centrale, surtout pour les femmes. Bon, nous avons besoin des activités de coupe et couture, nous avons besoin des activités d'esthétique, nous voulons assez que nous puissions obtenir aussi de l'aide.
La promiscuité reste encore un problème épiné pour la directrice adjointe de cette maison carcérale. Apollonia Longo plaide en outre pour la construction d'une autre infrastructure dans l'enceinte de cette prison, afin de placer les femmes à l'écart des hommes. De Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
République centrafricaine, l'ancien président va quitter la direction de son parti, le Kwanakwa, KNK. Il a en effet annoncé à ses troupes qu'il prenait la tête de la coalition des patriotes pour le changement et qu'il souhaitait se consacrer à la coordination des groupes armés. Selon Jeune Afrique, François Bozizé s'apprête à démissionner de son poste de dirigeant du KNK. Un remplaçant a déjà été désigné pour prendre la tête du principal parti d'opposition, mais son identité est pour l'instant tenue secrète pour des raisons de sécurité. Qualifié de tueur par Joe Biden, Vladimir Poutine lui propose une discussion en direct. Le président américain ne regrette pas d'avoir qualifié son homologue russe de tueur, selon son porte-parole, mais Vladimir Poutine, lui, affirme ne pas vouloir couper les ponts avec Joe Biden. Le président russe propose non pas une rencontre, mais une conversation téléphonique qui serait retransmise en direct.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur du PAM dans les trois provinces du Kasaï. Ivy Dalmeida vient d'effectuer une mission en Mbujimayi. Le but était d'évaluer ensemble avec les autorités provinciales les activités menées l'an dernier et d'annoncer par la suite les nouvelles stratégies d'intervention. Ivy Dalmeida s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Ivy Dalmeida. Vous venez de clôturer votre mission en Mbujimayi au Kasaï oriental. Quel a été le but de votre mission?
Le but essentiel de notre mission, c'était d'abord d'aller présenter les civilités à son excellence, monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, lui faire aussi le point de nos activités par rapport à 2020 et les perspectives dans lesquelles s'inscrivent nos activités de 2021.
Vous avez parlé avec l'autorité provinciale sur vos activités. Est-ce que nous pouvons avoir les grandes lignes de vos activités ici au Kasaï oriental pour cette année?
Cette année, les perspectives s'inscrivent dans le cadre de certains ajouts de programmes qui vont en quelque sorte renforcer le travail que nous faisons essentiellement sur le terrain. Donc l'assistance humanitaire que nous sommes en train de faire va prendre un volet assez particulier qui s'inscrira dans le nexus. C'est-à-dire qu'il y aura une synergie entre les différents agents du système des Nations Unies, à savoir le PAM, la FAO, l'UNICEF et le PNUD. Donc, plus concrètement, il s'agirait d'appuyer la population à travers les activités agricoles et aussi les activités liées au AGR. Donc, c'est essentiellement ce que nous avons partagé avec l'autorité provinciale pour lui dire que bon, notre assistance va continuer parce qu'il y aura toujours des vulnérables que nous allons servir. Mais au-delà de ces vulnérables, il faut aussi aider ceux qui sont capables de pouvoir surmonter cette étape de vulnérabilité et devenir résilients dans le cadre de l'agriculture ou bien des AGR.
C'est depuis plus de 5 ans que le PAM devrait appuyer certaines écoles à travers les cantines scolaires. À quel niveau êtes-vous avec ce programme?
Bon, effectivement, les programmes ont commencé depuis lors et nous appuyons 51 écoles dans le territoire de Miabi et de Tilindou. Et nous avons à peu près 33 000 bénéficiaires, y compris les élèves et les enseignants, aussi les cuisinières qui sont prises en charge dans ce programme-là. Donc jusque-là, l'année passée, nous avons distribué environ 286 métric tonnes de vivres et aussi d'autres articles culinaires.
Et ces vivres sont constitués de quoi exactement?
Bon, ces vivres sont constitués du riz, de l'huile, des légumineuses et du sel.
Et quel est l'impact de ces cantines scolaires d'après vous?
Bon, ce que nos statistiques ont donné, c'est qu'il y a une certaine augmentation du nombre d'enfants qui fréquentent. Et les absences à la fréquentation ne sont plus de mise comme cela était dans le passé. Donc, ça constitue un indicateur favorable à l'éducation, parce que s'il y a de l'absentéisme, ça ne favorise pas l'apprentissage des enfants. Donc, je crois que le fait de garder les enfants en leur apportant de la nourriture chaude pendant les heures de midi pour qu'ils puissent continuer les études après, constitue un gage pour pouvoir assurer la pérennité de leurs études.
Les problèmes d'apprentissage sont les mêmes presque dans toute la province. Vous n'avez retenu que 50 écoles. Les autres écoles étaient-elles oubliées? Y avait-il des critères qui ont milité pour que vous ne puissiez retenir que les 50?
Bon, l'essentiel, il faut commencer par quelque part. Mais la plupart de nos actions sont dictées par des évaluations. Et ces évaluations ont montré que la précarité au niveau de cette zone suscite qu'on y apporte un appui substantiel à l'école également. Mais tout dépendra aussi de notre enveloppe financière. Si nous avons d'autres bailleurs de fonds qui nous donnent les fonds nécessaires, nous allons étendre nos rayons d'activité. Donc, il n'est pas exclu que d'autres écoles pourront être encore ajoutées au nombre que nous venons de vous signaler.
Monsieur Aïvi Dalmeida, je vous remercie.
Merci, madame.
Le coordonnateur du PAM dans les trois provinces du Kasaï répondait aux questions d'Esther Ndalafina. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis.